Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Donald Trump défend son mur anti-migrants à la frontière mexicaine. Le président américain est ce soir à McAllen, au Texas, où nous retrouverons dans un instant notre envoyé spécial, Grégory Phillips. La victoire de l'opposition en République démocratique du Congo, mais le vainqueur proclamé de la présidentielle, Félix Tshisekedi, est déjà contesté par l'autre opposant, Martin Fayoulou. Le reportage d'Anthony Fouchard à Goma dans ce journal. En France, le Sénat convoque à nouveau Alexandre Benalla. La commission d'enquête sénatoriale veut entendre l'ex-collaborateur de l'Élysée sur ses passeports diplomatiques. Nous verrons cela avec Laurent Sénéchal. La fin du procès du cardinal Barbarin à Lyon. Le parquet n'a requis aucune condamnation contre l'archevêque, jugé pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Nous parlerons de l'attitude de l'Église face au scandale pédophile avec notre invité Samuel Pruvot, directeur du magazine Famille Chrétienne. En plein shutdown, Donald Trump est ce soir à la frontière mexicaine pour défendre sa politique migratoire. Au cœur du bras de fer budgétaire à Washington, il y a ce mur anti-migrant que le président américain veut construire et que les démocrates refusent de financer. Donald Trump s'est rendu à McAllen, une ville frontalière au Texas, où l'on retrouve notre envoyé spécial Grégory Phillips. Bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Grégory, mur ou barrière, Donald Trump n'en démord pas, il veut une clôture pour endiguer les flux migratoires vers les États-Unis.
Oui, et cette promesse de campagne, Donald Trump est venu la vendre ici à McAllen, tout au sud du Texas. La frontière et le Rio Grande ne sont qu'à quelques kilomètres. À l'arrivée sur le tarmac de l'aéroport, tout à l'heure, on a rassemblé des supporters du président qui criaient « Build the wall, construisez le mur ». Les mêmes supporters sont aussi en dehors de l'aéroport et font face pacifiquement d'ailleurs à environ 300 contre-manifestants qui, eux, ne veulent pas entendre parler de cette barrière. Le président a participé tout à l'heure à une table ronde sur l'immigration. Autour de lui, des gardes frontières et puis du matériel, des armes, de la drogue saisi aux trafiquants. Donald Trump se trouve maintenant sur la frontière, sur le Rio Grande, avant de regagner Washington. Parce qu'en vérité, c'est là-bas que tout se joue. Les démocrates, vous l'avez dit, ne veulent pas de ce mur à 5,7 milliards de dollars. La réunion d'hier à la Maison-Blanche a tourné court et donc le shutdown est toujours d'actualité. La paralysie partielle de l'administration américaine. Demain, ce sera le 21e jour de shutdown et on entrera dans le blocage le plus long de l'histoire des États-Unis.
Grégory Phillips en direct de McAllen au Texas, merci. Et en raison du shutdown qui paralyse partiellement l'administration américaine, Donald Trump n'ira pas au forum de Davos qui aura lieu du 21 au 25 janvier prochain. Le président américain l'a annoncé sur Twitter en rejetant la faute sur, je cite, « l'intransigeance des démocrates sur la sécurité aux frontières ». En République démocratique du Congo, c'est un opposant au régime Kabila, Félix Tshisekedi, qui a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle. Mais l'autre opposant en lice, Martin Fayoulou, conteste les résultats en s'appuyant sur les observations de la puissante église catholique congolaise qui avait déployé 40 000 observateurs le jour du scrutin. Félix Tshisekedi est en fait soupçonné d'avoir négocié avec le président sortant Joseph Kabila. À Goma, dans le nord-est de la RDC, la victoire de l'opposition avait un goût amer. Le reportage sur place d'Anthony Fouchard.
Les scènes de liesse au beau milieu de la nuit n'auront duré que quelques heures. Ici, on a fêté avant tout la défaite du candidat de la majorité présidentielle et l'on veut croire à une alternance politique.
Ce que je peux vous dire est que nous venons vraiment de très 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 loin. Ça fait 17 ans que nous sommes en train de lutter afin que ces régimes changent. Malheureusement, ça n'allait pas. Et aujourd'hui, nous venons maintenant de réussir de changer ces régimes qui nous a fait tant souffrir.
Pas sûr pour autant que Félix Tshisekedi, désigné vainqueur provisoire, incarne le changement tant attendu. À Goma, comme quasiment partout dans le pays, c'est Martin Fayoulou qui est arrivé largement en tête. Mais pour cet habitant, ce n'est pas un problème.
On attendait seulement qu'il y ait quelqu'un de l'opposition qui va gérer le pays. Je pense que le problème serait si Tshadari serait proclamé. C'est là où il y aurait un grand problème. Celui qui vient de passer, c'est quelqu'un de l'opposition. Laissons-lui travailler, nous ne voulons plus de difficultés. C'est le moment que le peuple congolais s'unisse, les mains dans la main.
Avec Félix Tshisekedi, c'est un opposant qui gagne, mais à quel prix ? Joseph Kabila a réussi à monter les deux oppositions les unes contre les autres. Martin Fayoulou devrait contester les résultats dans les prochains jours.
Anthony Fouchard, notre envoyé spécial en République démocratique du Congo. Au Venezuela, le président Nicolas Maduro a prêté serment aujourd'hui pour un deuxième mandat de 6 ans après sa réélection contestée. L'opposition vénézuélienne, laminée par une féroce répression, avait boycotté le scrutin. Avant même la cérémonie, les États-Unis avaient indiqué qu'ils ne reconnaîtraient pas l'investiture illégitime de la dictature Maduro. Nous continuerons d'augmenter la pression sur ce régime corrompu, a tweeté John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. L'affaire Benalla pourrait bien rebondir politiquement au Sénat. La commission d'enquête sénatoriale a décidé de convoquer le 21 janvier prochain l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, qui devra s'expliquer sur les passeports diplomatiques qu'il a continué à utiliser après son licenciement de l'Élysée. Convoqué également dès le 16 janvier, les ministres Jean-Yves Le Drian et Christophe Castaner. Les précisions de Laurent Sénéchal.
Les sénateurs disent vouloir réaliser des auditions rapides et complémentaires sur les éléments nouveaux révélés par la presse. Ils vont demander à Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, quelle est l'organisation exacte du Quai d'Orsay et pourquoi il n'a pas pu obtenir la restitution des passeports diplomatiques. Ils n'ont été rendus que cette semaine par Alexandre Benalla. La commission veut comprendre ensuite comment se font les vérifications des passeports diplomatiques par la police aux frontières, dont est responsable le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. C'est à ce titre qu'il sera interrogé. Vincent Crase, ensuite, soupçonné de violence le 1er mai aux côtés d'Alexandre Benalla. Il sera lui aussi auditionné à nouveau. En fait, il a souvent été appelé comme réserviste en appui de la sécurité de l'Élysée. Les sénateurs se demandent s'il avait déjà sa société privée et si cette société était en relation avec des pays étrangers. Enfin, Patrick Strodal, directeur de cabinet du président, pourra expliquer à la commission comment l'Élysée a récupéré le matériel fourni à Alexandre Benalla. La commission précise qu'il n'y aura pas d'autres auditions, ce sont les dernières, puisque les pouvoirs d'enquête de cette commission attribuée pour 6 mois s'arrête le 24 janvier.
Laurent Sénéchal, merci. Le procès du cardinal Barbarin s'est achevé aujourd'hui à Lyon devant le tribunal correctionnel. L'archevêque et les 5 autres prévenus d'anciens membres du diocèse lyonnais connaîtront leur sort le 7 mars prochain. Tous sont poursuivis pour ne pas avoir dénoncé un prêtre accusé d'agression sexuelle, le père Prénat. Mais hier, le ministère public n'a requis aucune condamnation. Il reste que pour les partis civils et notamment l'association de victimes La Parole Libérée, ce procès aura été utile pour briser le silence de l'Église. Antoine Marette.
Le procès devait durer 3 jours, il en aura duré 4. 4 jours pendant lesquels des victimes présumées auront pu exprimer longuement leur souffrance. 4 jours qui auront mis en évidence une certaine naïveté de l'Église sur la question de la pédophilie. La souffrance s'est illustrée dans les récits des partis civils, 30 voire même 40 ans après les faits. C'est parfois la voix tremblante, étouffée par des sanglots, que ces hommes, à l'enfance abîmée, mais debout, ont raconté l'indicible. Ils ont cassé la loi du silence à laquelle ils se sont pliés si longtemps, eux qui, enfants, étaient incapables de porter le poids de la chute d'un prêtre adulé et charismatique. Face à eux, une Église qui ne prend pas la mesure du problème. Le cardinal Barbarin qui ne se soucie pas des rumeurs sur le père Prénat dans un premier temps, qui finit tout de même par le convoquer en 2010... Le prêtre avoue des agressions sexuelles anciennes. Il n'est pas révoqué ni même sanctionné, encore moins dénoncé aux autorités, comme si ces agressions sexuelles présumées sur des enfants n'étaient qu'une erreur de jeunesse. Et que penser de cet ex-psychologue du diocèse de Lyon qui reçoit des victimes présumées du père Prénat? Pour l'une d'entre elles, Régine Maire organise une confrontation avec le prêtre en 2014 qui ne dément pas les accusations, confrontation qui se termine par une prière à 3, main dans la main. La prière comme seule réponse à des accusations d'une extrême gravité.
Antoine Marette qui a suivi ce procès du cardinal Barbarin pour France Culture. Invité de ce journal, Samuel Pruvot, rédacteur en chef au magazine catholique Famille Chrétienne. Bonsoir.
Bonsoir.
Samuel Pruvot, selon vous, ce procès a-t-il permis de libérer la parole sur les agressions sexuelles au sein de l'Église ?
Alors, en tout cas, ça a libéré la parole des victimes, c'est une évidence. Je rappelle, en fait, que avant l'action de la parole libérée, en tout cas sur Lyon, mais aussi ailleurs, la parole, elle est forcément condamnée, j'allais dire, à rester enfouie. Et si vous me permettez ce terme qui n'est pas beau, mais qui a été utilisé par beaucoup de victimes, à faisander. C'est-à-dire que la moyenne pour qu'une victime soit capable de parler, la moyenne aujourd'hui, c'est de 30 ans. ça paraît démentiel, mais c'est le cas. Donc la parole libérée a libéré au moins la parole des victimes d'un certain nombre d'entre elles, non seulement à Lyon, mais ailleurs. Alors, est-ce que ça a libéré la parole dans l'Église? Je pense qu'objectivement, l'Église a fait un travail sur elle-même qui est un travail de l'Église universelle. Hein, depuis les années 2000, avec Benoît XVI, il y a quand même une parole très forte sur qu'il appelle tolérance zéro. Donc ça, on ne peut pas l'interpréter de mille manières. En revanche, ce qui a été dit par les partis civils, et je pense qu'il faut l'entendre, il y a une question de mentalité qui fait que tel ou tel homme, tel ou tel prêtre peut être amené à se dire que au regard justement du scandale public, c'est ce que disait aussi Rome, attention, il faut quand même protéger un petit peu la paroisse, protéger l'image, protéger l'institution. Et ça, de fait, j'allais dire, c'est pas gagné, malgré la direction très claire donnée par Benoît XVI, le pape François, qui est de dire, on ne défend pas l'institution. S'il y a quelqu'un à défendre, c'est les victimes. Et je pense que ça, tout le monde comprend.
Est-ce que les agressions sexuelles ont augmenté ces dernières années au sein de l'Église en France? Est-ce qu'on peut finalement quantifier ce phénomène?
Alors, quantifier le phénomène, c'est assez difficile. C'est la raison pour laquelle, en novembre dernier, les évêques de France ont décidé d'ouvrir une commission d'enquête indépendante dont la vocation est de recenser tous ces crimes de pédophilie depuis les années 50, donc même, évidemment, s'ils sont prescrits depuis longtemps. Après, est-ce que ces cas sont en explosion aujourd'hui? Espérons que non, c'est difficile à dire puisque les victimes mettent forcément du temps à se déclarer, mais objectivement, vu les règles drastiques qui sont celles de l'Église universelle et de l'Église de France depuis les années 2000, j'allais dire, j'espère pas de façon cynique parce que le sujet est trop grave, mais il est de plus en plus difficile, voire impossible, d'être un prêtre pédophile en France avec les règles en vigueur. Par exemple, il est impossible pour un prêtre en France d'enseigner le catéchisme seul à des enfants. Il faut impérativement la présence d'une tierce personne, un laïc ou un autre prêtre. Et il y a de multiples critères, règles de vie, qui sont désormais obligatoires. On peut ne pas les respecter, hein, mais ces règles, elles existent et elles sont extrêmement claires. Elles ne souffrent aucune interprétation.
Samuel Pruvot, est-ce qu'il faut revoir la formation des prêtres pour éviter que certains ne dérapent?
Alors, de toute façon, cette formation, elle est en train, j'allais dire, d'être revue, mais sans doute que ça ne suffit pas, et j'allais dire aussi que peut-être que ça ne suffira jamais, parce que peut-être que certains pédophiles ne seront pas identifiés. Mais nous avons fait à Famille Chrétienne une enquête qui était assez d'ailleurs pathétique, une enquête chiffrée sur les cas notamment qui se sont déroulés, il y a l'Irlande, il y a les États-Unis, il y a l'Australie, où on a en fait toute une somme, une quantité, et qui nous permettent en fait de distinguer le profil et la chronologie de ces prêtres pédophiles. Et à présent, on peut être contesté, puisqu'encore une fois, les actes sont révélés au fil du temps. Mais il y a un pic dans l'Église universelle des actes pédophiles dans les années 70-80, ce qui correspond, non pas selon la foi, mais selon les spécialistes, ce qui correspond à un climat qui est celui des années 70, post-68, où ça peut paraître complètement dingue, mais la pédophilie était une action éventuellement possible au nom de la liberté, au nom de l'éducation sexuelle de la jeunesse. C'est difficile à dire, mais malheureusement vrai, on a des personnalités comme Daniel Cohn-Bendit ou des personnalités comme Jean-Paul Sartre qui ont pu au moins intellectuellement défendre pour des raisons idéologiques cette capacité à avoir accès à la sexualité très jeune guidée par un adulte. Du coup, je pense que culturellement, nous sommes passés dans un monde absolument différent, c'est le jour et la nuit. Et je pense qu'objectivement, dans l'Église, on a aussi compris, enfin mieux compris, j'espère, la gravité extrême de ces agressions qui portent un préjudice à vie et dont la psychologie des victimes porte un préjudice à vie. Et ça, je crois objectivement que dans les séminaires, la question commence à être mieux entendue, sinon entendue.
Samuel Pruvot, rédacteur en chef au magazine Famille Chrétienne, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. C'est un record pour une pétition en ligne en France. Plus de 2 millions de personnes ont déjà signé l'appel du siècle, un texte rédigé par 4 ONG qui veulent attaquer l'État français pour inaction climatique. Les 4 ONG en question sont Greenpeace France, Oxfam France, la Fondation pour la Nature et l'Homme et enfin l'ONG Notre-Dame. notre affaire à tous. La météo demain restera hivernale dans le nord-est avec quelques chutes de neige. Sur le reste de la moitié nord, le ciel sera couvert et parfois faiblement pluvieux. Au sud, un temps généralement ensoleillé, mais des nuages arriveront dans l'après-midi sur le sud-ouest. Température minimale, il gèlera presque partout, sauf dans le nord-ouest, de 0 à moins 7 degrés en général. Les maximales iront de moins 1 à 10 degrés jusqu'à 13 près de la Méditerranée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.